Lettre d'un innocent, écrite par le capitaine Alfred Dreyfus. Édition de l'Aurore, parue à Paris en 1898. La lecture d'aujourd'hui est tirée du site Wikisource en date du 24 mars 2010. Introduction. Histoire d'une erreur judiciaire. Par un témoin de la vérité. 1. Les pièces secrètes. Il y a 6 mois à peine, on n'aurait pas trouvé 100 personnes en France qui eussent osé élever la voix en faveur du capitaine Dreyfus. Aujourd'hui, c'est par centaines de mille que se comptent les partisans de la révision du procès de 1894 et, malgré vent et marée, leur nombre augmente en une progression rapide. D'où vient pourtant qu'une idée qui a déjà vaincu tant de résistance rencontre encore tant d'adversaires acharnés? La raison en est simple. Les premiers ont connaissance des faits. Les seconds ne paraissent pas les soupçonner. Quand ces derniers seront édifiés à leur tour, c'est le pays tout entier qui sera conquis à la vérité. Cette pénétration de la lumière est malheureusement ralentie par la conspiration du mensonge ou du silence qui semble avoir été organisée par une grande partie de la presse. La plupart des journaux laissent leurs lecteurs dans l'ignorance absolue de ce qui pourrait les éclairer ou, s'ils leur fournissent quelques renseignements, ils les tronquent et les dénaturent. Que la force de l'évidence les contraigne à donner à leurs informations plus d'exactitude et tous les malentendus qui nous divisent auront bientôt cessé. C'est à hâter ce résultat que nous espérons travailler en leur enseignant ce qu'ils auront à raconter le jour où ils voudront bien devenir sincères. Dreyfus a été irrégulièrement condamné sur la production, après débat clos, de pièces secrètes. Un premier fait est indéniable. C'est que Dreyfus a été condamné sur la production de pièces secrètes communiquées au Conseil de guerre après la clôture des débats. Il suffit, pour l'établir, du silence gardé par le général Mercier, par le ministre de la guerre, par les membres du gouvernement, toutes les fois qu'ils ont été appelés à s'expliquer sur ce point. Une négation de leur part eût suffi pour que la question ne leur fût plus posée. Mais ils n'ont pas voulu faire un aussi gros mensonge. Ils se sont tus. Le refus de s'expliquer quand ils pouvaient parler équivaut à un aveu formel. Et comment, en effet, n'ayant pas le courage de reconnaître ouvertement l'illégalité commise, aurait-il eu l'audace de la nier? On ne s'expose pas à se faire donner les éclatants démentis qui se seraient élevés contre leurs paroles s'ils eussent essayé de répondre non quand c'est un oui que la vérité commande. Les témoins de ce oui, désormais indiscutable, sont déjà nombreux. C'est Maître Demange, avocat, qui a raconté, sous la foi du serment, comment son confrère, M. Salles, en a un jour reçu la déclaration expresse d'un membre du Conseil de guerre de 1894. C'est le secrétaire de Maître Demange qui confirme les souvenirs de ce dernier. C'est l'éditeur Stock qui a recueilli, lui aussi, comme M. Salles, semblable aveu d'un autre membre du même conseil de guerre et qui a, en outre, pu spécifier, sans recevoir un démenti, le nombre et la nature des pièces secrètes abusivement communiquées. c'est le lieutenant-colonel Picard qui a fait connaître comment cette communication avait été préparée par la remise aux mains du commandant du Paty de Clam en décembre 1894 du dossier secret. C'est le récit de l'éclair dans son numéro du 15 septembre 1896. Ce seront enfin tous les membres du Conseil de guerre, le jour où leur langue voudra bien se délier en dehors des confidences particulières. La preuve fournie sur ce point suffit à faire crouler tout entier le procès de 1894, car le premier droit d'un accusé est de savoir ce dont on l'accuse et d'être mis en état de se justifier, ainsi que M. le procureur général de la Cour de cassation l'a proclamé dans l'intérêt de la loi. Pour rassurer les esprits, M. le ministre de la Guerre n'avait pas craint de dire à la Chambre que Dreyfus avait été régulièrement et légalement condamné. C'est le contraire qui se trouve constaté. Le capitaine Dreyfus a été irrégulièrement et illégalement condamné. 2. Dreyfus n'est pas l'auteur du bordereau qui lui a été attribué à tort en 1894 et qui était l'unique chef d'accusation pouvant motiver sa condamnation. Un rapide récit des faits est nécessaire. Un jour, en 1894, un espion a apporté au ministre de la Guerre une lettre qu'il a dit avoir été surprise à l'ambassade d'Allemagne et qui tendait à démontrer qu'un de nos officiers livrait les secrets de la défense nationale à M. de Schwarzkoppen, attaché militaire auprès de cette ambassade. C'est cette lettre qui a été appelée le bordereau, parce qu'elle contenait l'énumération de documents qui venaient d'être communiqués à l'attaché militaire. Trouver l'auteur du bordereau, c'était mettre la main sur le traître. Malheureusement, on partit de cet a priori que la trahison devait avoir été commise dans les bureaux mêmes de la guerre. On prit, en conséquence, des spécimens d'écriture de tous les employés du ministère. Après comparaison, on en retint quelques-uns qui offraient des traits plus ou moins éloignés de ressemblance avec la pièce dénonciatrice. Bientôt, on n'en conserva qu'un seul, celui qui émanait du seul juif de la maison, le capitaine Dreyfus, qui, dès qu'il se trouva directement accusé, apparut comme devant être forcément coupable. L'expert habituel du ministère, l'honorable M. Gobert, également expert du parquet et de la Banque de France, fut appelé à donner son avis. Il émit l'opinion qu'on devait faire fausse route. Mais on ne s'arrêta pas à un aussi gênant conseil. On fit de même pour M. Pelletier, qui montra les mêmes scrupules, et l'on ne se tint pour satisfait que lorsqu'on put enfin fortifier l'accusation des conclusions de messieurs Bertillon, Tessonnière et Charavé. Que la bonne foi de ces trois derniers experts ait été entière, il n'y a aucun intérêt à le contester, mais leur appréciation choquait les plus claires vraisemblances. C'est ce qui ressortait avec évidence des termes mêmes de leur rapport. Ils avaient été les premiers à constater, en effet, des dissemblances entre l'écriture de Dreyfus et celle du bordereau, tout en les déclarant de même origine. Et ces dissemblances avaient dû être expliquées par eux. Or, ils n'avaient rien trouvé de plus simple que de les déclarer a priori volontaires. D'après eux, Dreyfus avait sans doute voulu détourner de lui les soupçons et il avait dû s'appliquer à changer, dans une certaine mesure, la forme de ses lettres. et ses habitudes de main. La supposition était d'autant plus téméraire qu'elle était grosse d'absurdité. Comment, si Dreyfus, écrivant le bordereau, eut craint d'être dénoncé par son écriture, n'en eût-il pas complètement dénaturé le caractère et se fût-il contenté de quelques changements insuffisants pour se mettre à l'abri de toute suspicion? Il n'était pas permis de lui prêter une pareille sottise et toute l'expertise ne reposait ainsi que sur un faux raisonnement. Les dissemblances d'écriture constatées, ne pouvant être volontaires, prouvaient que Dreyfus n'était pas l'auteur du bordereau. Voilà ce que disait le bon sens. C'est sans doute la fragilité d'une expertise aussi peu concluante qui fit juger nécessaire, une fois le débat clos, la communication des pièces secrètes. Mais si cette expertise ne pouvait être une base sérieuse pour la condamnation, et si, d'autre part, on ne pouvait juger Dreyfus sur des pièces qui ne lui avaient pas été communiquées, sur quoi donc pourrait-on se fonder pour accepter comme exacte la sentence du Conseil de guerre? La justice peut se tromper, nous dit-on, mais il ne suffit pas d'une possibilité d'erreur pour revenir sur la chose jugée. Soit, nous ne l'ignorons pas. Mais il ne s'agit pas seulement de possibilité d'erreur. L'événement en a prouvé la certitude lorsque sont venus de nouveaux éléments d'appréciation devant lesquels il n'est plus permis d'invoquer les fictions juridiques et de fermer les yeux. Le Conseil de guerre de 1894 ne savait pas tout lorsqu'il a cru devoir déclarer Dreyfus auteur du bordereau que lui attribuaient messieurs Bertillon et Tessonnière. Il ignorait ce qui a été découvert en 1896 par le lieutenant-colonel Picard, à savoir que ce bordereau était de l'écriture du commandant Esterhazy. À partir de ce moment, il n'y a plus eu à interpréter le défaut de similitude constaté avec l'écriture de Dreyfus et à supposer qu'il puisse être le résultat d'un calcul et d'une dissimulation. L'écriture de Dreyfus est dissemblable dans son ensemble de celle du bordereau, par cette raison toute naturelle que ces deux écritures n'ont pas été tracées par la même main. Il n'y a plus de doute possible. Il ne saurait s'agir de l'écriture de Dreyfus, là où l'on retrouve, sans différence aucune, trait pour trait, celle d'Esterhazy. Qui nie le fait? Personne. Trois experts, messieurs Couard, Varinard et Bellhomme, ont bien prétendu que ce n'était pas le commandant qui avait dû lui-même écrire le bordereau. Mais ils ont si bien reconnu le cachet propre de son écriture qu'ils ont admis que cette écriture avait dû être décalquée sur des correspondances émanées de lui. C'est complaisamment accepté l'hypothèse imaginée par Esterhazy lorsque, frappé lui-même par une similitude écrasante, il avait essayé de prétendre que quelqu'un avait dû le décalquer. Mais non seulement cette histoire de décalque n'a pas le sens commun. Il faut ajouter que, fût-elle vraie, elle suffirait encore à disculper Dreyfus. Où serait, en effet, la preuve, s'il y avait eu décalque de l'écriture d'Esterhazy, que ce fût Dreyfus qui en eût été l'auteur? Non seulement il ne serait pas plus plausible de lui imputer qu'à tout autre, mais il y aurait même à son égard une circonstance particulière qui devrait écarter de lui tout soupçon. S'il eût fabriqué le bordereau en simulant l'écriture d'Esterhazy. Il faudrait, en effet, supposer qu'il aurait eu la pensée de détourner sur ce dernier l'accusation, si la trahison venait à être découverte. Or, comment expliquerait-on alors qu'il se fût laissé condamner en 1894 sans chercher à profiter de sa manœuvre, qu'il eût souffert 3 ans à l'île du diable sans prononcer le nom d'Esterhazy et que la découverte du fait qui devait le sauver appartint, tout à fait en dehors de lui, au chef du bureau des renseignements de la guerre? Dreyfus a donc été victime d'une erreur matérielle dont les preuves sont tangibles. De deux choses l'une, ou le bordereau est l'œuvre personnelle d'Esterhazy, ce qui paraît l'évidence, ou il a été décalqué sur l'écriture d'Esterhazy, ce qui est l'invraisemblable version des experts. Mais, quelle que soit l'hypothèse à choisir, elles excluent également l'une et l'autre l'idée qu'on soit en présence de l'écriture même du capitaine Dreyfus. 3. Il n'y a pas de pièce secrète convaincante de la trahison de Dreyfus. Le bordereau échappant à l'accusation, on a cru devoir se rattraper sur les pièces secrètes et on a répandu le bruit dans certains journaux à grand renfort d'insinuations mensongères qu'il existait des preuves de la culpabilité de Dreyfus qu'on ne pouvait faire passer sous les yeux du public. Il est bien entendu, tout d'abord, que les prétendues preuves sont sans valeur contre lui tant qu'elles ne lui ont pas été communiquées pour lui permettre de les discuter. Mais examinons-les à sa place, puisque nous avons, nous, l'avantage d'en connaître la teneur. Elles n'ont aucune portée. Parmi les documents qu'on a secrètement communiqués au Conseil de guerre, aucun, en fait, ne visait personnellement le capitaine Dreyfus. Il ne lui était donc pas plus applicable qu'au premier venu de ses camarades. Un seul pouvait prêter à l'équivoque. C'est le fameux passage d'une lettre où un attaché d'ambassade écrivait à un autre attaché de ses amis « Ce canaille de D », etc. C'est sur la coïncidence de cette lettre D avec l'initiale de Dreyfus qu'on a bâti toute la légende des rapports qu'aurait entretenu l'infortuné capitaine avec les attachés militaires d'Allemagne et d'Italie. On a apporté dans la machination de ce roman tant de légèreté et de mauvaise foi qu'on a été jusqu'à commettre un faux pour le mieux faire accepter par la crédulité publique. Le 15 septembre 1896, le journal L'Éclair, parlant de l'impression décisive qu'avait produite sur le Conseil de guerre le passage su-relaté, remplaçait l'initiale D par le nom même de Dreyfus et altérait ainsi le texte, entre guillemets. « Cet animal de Dreyfus devient bien exigeant. » Fin de la citation. À partir de ce moment, trompé par cette audacieuse falsification, beaucoup n'ont plus douté qu'il s'agissait de Dreyfus. Mais leur erreur peut-elle persister quand la supercherie qui en a été la cause a été démasquée? Affirmer que l'initiale D désigne un nom quand elle en peut aussi bien désigner 100 autres, c'est pure folie. Et il est effroyable de penser que c'est peut-être cependant cette affirmation qui a suffi pour entraîner la condamnation de Dreyfus. Aussi bien, l'état-major n'a point été le dernier à sentir l'inanité d'une pareille preuve et le général de Payeux, dans le procès Zola, a cru devoir nous rassurer. Il a admis que l'on pouvait bien avoir encore aucune preuve certaine de la culpabilité au moment du verdict de 1894. Mais il a ajouté que cette preuve était arrivée 2 ans plus tard au ministère en novembre 1896. Quelle est donc cette révélation confidentielle qui serait venue après coup montrer qu'on n'avait à redouter aucune erreur? Il s'agirait, d'après l'honorable général, d'un bout de lettre non signé, mais accompagné d'une carte de visite, dans laquelle un des 2 attachés militaires des ambassades d'Allemagne et d'Italie aurait, à la veille de l'interpellation Castelin, conseillé à son camarade de ne pas dire un mot de, entre guillemets, cette juiverie. Fin de la citation. Cette juiverie, entre guillemets, aurait indiqué Dreyfus, sur lequel il fallait faire le silence. Que l'état-major ait pris au sérieux cette note informe, quand elle lui est arrivée par le service de l'espionnage, il faut bien l'admettre, puisqu'il l'invoque comme son plus précieux argument. Mais, en vérité, il faut qu'il y ait bien peu réfléchi, et son esprit critique s'est singulièrement trouvé en défaut. Les faux papiers Norton, les faux documents Le Mercier Picard auraient semblé authentiques auprès de ce mémorandum inouï, ridicule, invraisemblable, attribué à un officier d'ambassade. Entre guillemets, nous ne dirons pas un mot de cette juiverie. Fin de la citation. Comment n'a-t-on pas vu qu'il y avait là, manifestement, une de ces inventions nombreuses à l'aide desquelles un habile faussaire a cherché à dérouter la justice depuis que le commandant Esterhazy s'est vu sérieusement soupçonné? Tout n'en montre-t-il pas le caractère apocryphe? Quel besoin, d'abord, messieurs de Schwarzkoppen et Panizzardi, auraient-ils eu de s'exhorter au silence en 1896, quand, depuis 1894, ils se taisaient d'un commun accord? Quelle idée les aurait pris de s'écrire pour se donner un mot d'ordre qu'il était au moins imprudent de mettre à la portée d'une main indiscrète? Ils se voyaient tous les jours et souvent plusieurs fois par jour. De quelles expressions, enfin, se seraient-ils servis pour donner leur avertissement? Est-ce que le terme « cette juiverie » ne sort pas de la vraisemblance et répond-il à l'esprit de réserve auquel 2 officiers diplomates doivent être accoutumés? Cela flaire le faux, avait dit immédiatement le lieutenant-colonel Picard, qui avait compris que, en cherchant à compromettre un peu plus Dreyfus, quelqu'un, facile à reconnaître, cherchait à entraver l'enquête ouverte sur le compte d'Esterhazy. Et, après le colonel Picard, tous ceux qui savent peser d'une main exercée la valeur probante d'un acte dont l'origine est incertaine, répètent sans hésiter « C'est un faux !» Voilà donc à quoi se réduisent les preuves mystérieuses sur lesquelles on voulait étayer l'œuvre du Conseil de guerre. Quelques fragments, sans authenticité, de correspondance remis on ne sait par qui au bureau des renseignements de l'état-major, d'origine louche pour les uns et sans applicabilité pour les autres. Tous ignorés d'ailleurs de Dreyfus, et lui étant légalement inopposable. 4. La révision du procès Dreyfus s'impose, et on aurait tous les moyens de savoir quel est le traître. La double découverte que Dreyfus a été condamné sur la production irrégulière de pièces secrètes et comme auteur d'un bordereau qui lui a été à tort attribué doit forcément entraîner la révision de son procès. Que se passera-t-il quand il devra recomparaître devant ses pairs pour être jugé à nouveau? Là, l'instruction de son affaire devra s'élargir pour éviter toute cause nouvelle d'erreur, et il sera indispensable qu'on tire au clair, en même temps que les accusations portées contre lui, celles qui pèsent sur le commandant Esterhazy. Une similitude frappante d'écriture porte à penser que c'est à ce dernier que doit être attribué le bordereau, point de départ des poursuites. Il ne reste qu'un témoignage à consulter pour le disculper ou le confondre. C'est celui de l'officier aux mains duquel les pièces énumérées dans le bordereau ont été remises. Si rien n'avait transpiré de ce que peut dire cet officier, peut-être serait-il délicat de lui demander son secret, qu'il pourrait vouloir taire. Mais au contraire, on sait ce qu'il dira avant qu'il ait publiquement parlé, car la vérité s'est déjà fait jour par des voies détournées. On sait, par les déclarations formelles de M. le ministre d'État de Bülow au Parlement allemand et de M. Bonin, sous-secrétaire d'État au Parlement italien, que jamais les attachés militaires d'Allemagne et d'Italie n'ont eu aucun rapport avec le capitaine Dreyfus. On sait, par ce qui se dit couramment dans les ambassades et ce qu'a raconté dans sa lettre au siècle M. Casella, que le commandant Esterhazy a livré des quantités de documents militaires au colonel de Schwarzkoppen et que ce dernier l'a déclaré « capable de tout ». Entre guillemets. On sait enfin que ces assertions produites au grand jour n'ont provoqué aucun des démentis qu'elles eussent nécessité si elles étaient fausses, et ceux-là même qui voudraient empêcher la vérité de se faire jour en sont réduits, pour les combattre, à inventer des histoires qui apparaissent comme des demi-aveux, à savoir que, si le commandant Esterhazy a jamais communiqué des pièces au colonel de Schwarzkoppen, il n'a agi qu'avec l'assentiment de ses chefs, se bornant à faire ce qui s'appelle, dans la langue du métier, du contre-espionnage. Comment, quand les choses en sont arrivées à ce degré de clarté, se refuserait-on à faire le dernier pas pour arriver à la pleine et irrécusable lumière? Dirait-on qu'il ne faut pas appeler des étrangers dans une affaire où la défense nationale peut se trouver intéressée? Mais la défense du pays est-elle donc en jeu dans une question de pure bonne foi quand il ne s'agit que de guider la justice et de faire appel à des témoins nécessaires? Quel serait notre état d'esprit si nous mettions en doute la sincérité de témoignages qui n'ont aucun intérêt à nous tromper, par ce motif seul qui nous vient du dehors? Assurément, s'il ne s'agissait que d'une question ordinaire de trahison, nous n'aurions rien à demander à des officiers de nationalité étrangère. Et sans doute aussi ces derniers se refuseraient-ils à nous instruire de ce qu'ils pourraient savoir. Mais oublie-t-on que le but à poursuivre n'est pas la répression d'un crime touchant à la sûreté extérieure de l'État. C'est la révision d'une erreur judiciaire qui soulève une question d'humanité. Pour faire cesser cette intolérable iniquité, la torture morale d'un innocent. Rien ne peut coûter à des hommes qui doivent avoir comme premier principe gravé dans leur conscience le respect de la justice et du droit. Ils y doivent sacrifier, s'il est nécessaire, tout esprit d'amour-propre et d'orgueil. Le sacrifice accompli est, en un tel cas, plus noble et plus glorieux que les sentiments au-dessus desquels il a fallu s'élever pour y atteindre. 5. Un mot d'appel au sang-froid, à la raison et à la loyauté. Quelqu'un croyant à l'innocence de Dreyfus pourrait-il songer à étouffer de gaieté de cœur la vérité en marche? S'il en est qui s'inquiètent de leurs responsabilités éventuelles et qui croient voir partout des raisons d'État, ils en sont là peut-être. Mais nous ne pouvons croire à une pareille indifférence de la part de ceux qui ne se sentent troublés par aucune préoccupation personnelle et qui ont conservé leur sang-froid. Nous pouvons nous laisser abuser, nous abandonner aveuglément à l'intolérance d'un faux patriotisme, mais nous ne sommes pas un peuple d'égoïstes, et notre générosité native se réveille quand nous croyons voir la vérité opprimée et l'injustice triomphante. Que faut-il pour que nous nous rencontrions tous dans un même sentiment de pitié à l'égard du capitaine Dreyfus et que nous invoquions tous en sa faveur le secours de la loi? Il suffit que nous approfondissions sans parti pris et d'un esprit loyal les détails de son affaire, que nous nous fassions un devoir de n'en rien ignorer et que, surtout, nous sachions rester sourds aux excitations révoltantes qui tendent à la transformer en levier politique. Le jour où cette idée grandissante, que le condamné de l'île du diable est un martyr, aura pénétré plus profondément dans le cœur de la nation, rien ne pourra plus la déraciner. Et ce jour-là, l'heure de la réparation aura sonné. En attendant ce jour de soulagement, veuillez, vous qui venez de parcourir ces lignes, lire encore avec attention les lettres de celui dont la cause ne peut vous laisser insensible et que nous reproduisons ci-après comme un complément éloquent de notre appel. Vous n'y trouverez ni explication, ni discussion, ni plainte, mais vous y entendrez le cri de la conscience et vous serez ému jusqu'au profond de votre être par l'accent confiant et sincère d'une protestation à laquelle 3 années de souffrance indicible n'ont pas encore fait perdre tout espoir. Fin de l'introduction aux lettres d'un innocent, écrite par le capitaine Alfred Dreyfus.